Bonjour à toutes et à tous, à chacun, chacune, bienvenue sur La Route Inconnue, votre magazine dédié à la poésie vivante, celle qui s'écrit, se publie et se lit aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne année, une année en poésie bien entendu. Alors la poésie c'est quoi, me demanderez-vous, histoire de m'embarrasser? Réponse, je n'en sais rien, alors débrouillez-vous tout seul, faites de ce mot ce que bon vous semble, inventez-lui autant de définitions qu'il vous plaira. Pour ce qui me concerne, je vais continuer cette année de vous faire découvrir ou redécouvrir des poètes, deux par mois, qui dit mieux. Et le premier sur ma liste s'appelle Éric Godichaud, il habite Chartres, figurez-vous. C'est pourquoi il est venu en chair et en os nous parler de son premier recueil, Le Cabinet de Curiosité. Il s'agit du dernier polder publié par notre partenaire, la Revue des Charges, le polder numéro 172 pour l'anecdote, et un très bon cru, drôlatique, surréaliste, plein de folie et d'humour, avec sans doute autre chose encore que nous dévoilerons tout à l'heure. Enfin, qu'il nous dévoilera s'il le veut bien. Avant de vous présenter donc Éric Godichaud, permettez que je proclame le nom des chroniqueurs que vous retrouverez en queue d'émission, Claude Verset, Patrick Jockel et last but not least, Cécile Guivarche. Éric Godichaud, bonjour.
Bonjour.
Alors, je suis très heureux de vous recevoir aujourd'hui pour parler de ce merveilleux petit bouquin, Le Cabinet de Curiosité, coédité par la Revue des Charges et les éditions Gros Texte. Votre préfacier Alex Millon déclare « La série de textes qui va s'ouvrir à vous est une galerie non marchande. On y trouve des métiers de l'invisible, tout ce qui se trame dans un état de conscience entre veille et sommeil. » Vous m'avez confirmé ça tout à l'heure, de vive voix. Ce sont des rêves, ou presque.
Oui, c'est le rêve, c'est un peu le matériau originel de ma poésie. Parce que je suis un très grand rêveur depuis que je suis petit. Et donc, je me suis servi des rêves, en fait, réellement des rêves. Il y a des textes qui sont écrits à partir de rêves que je fais la nuit. Et puis, je me suis servi aussi de ce que Freud appelle le travail du rêve pour créer une écriture qui soit une écriture, effectivement, comme vous l'avez dit, avec beaucoup d'images, un imaginaire assez riche, et aussi une forme d'humour, ce que Freud appelait le Witz. J'aime bien ce mot-là.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Le Witz, c'est le mot d'esprit, mais en allemand, ça ressemble un peu au Blitz, c'est-à-dire à l'éclair. C'est quelque chose comme ça qui est instantané et qui fait entrer dans une nouvelle dimension.
Comme un Koan Zen, un peu.
Ouais. Voilà, tout à fait.
D'accord.
Ouais,
un peu, ouais. Alors, vous avez cité Freud, c'est pas un hasard, parce que vous venez de terminer des études de psychanalyse. Voilà. Vous allez ouvrir un cabinet de, non pas de curiosité, mais de psychanalyse.
Mais en fait, quand je l'ai écrit, je me suis pas rendu compte que c'était comme les prémices de mon cabinet de psychanalyste. C'est vrai que c'est le même terme.
Ouais. Oui. Alors, quand vous dites que vous rêvez beaucoup, il faut quand même se souvenir de ces rêves. Naturellement, vous vous en souvenez?
Ah oui, depuis que je suis petit. Tout petit, je peux même raconter des rêves que j'ai faits à 6 ans, à 7 ans, à 8 ans. Oui, c'est une sorte de don.
Ouais.
Voilà, je me rappelle très bien de mes rêves.
Et l'intérêt de les noter, d'en faire des histoires finalement, parce que à chaque fois vous racontez des petites histoires.
Oui, c'est vrai que le cabinet de curiosité, en fait, c'est des petites histoires, c'est des sortes de petits récits, de petites nouvelles poétiques, où le but aussi c'est de... C'est-à-dire que ce que je pense, c'est que la poésie, en fait, elle va changer le rapport à la langue. C'est-à-dire que normalement, la langue, ça sert à dire quelque chose. Et je pense que la vraie optique, ce qui fait le poète, c'est que la langue devient son propre matériau.
Ouais.
Ouais. C'est-à-dire que la poésie, c'est un travail sur la langue. Ce qui fait d'ailleurs qu'il y a des poètes parfois chez des prosateurs comme, alors j'ai un intérêt particulier pour Marcel Proust.
Oui.
Justement parce que aussi ce qui fait l'essence de la recherche du temps perdu, c'est l'importance des rêves.
Oui.
Quand j'ai arrêté ma troisième tranche d'analyse à Paris, j'avais du temps et donc j'ai fait l'inventaire complet des rêves dans la recherche, par exemple.
Oui.
Voilà.
Est-ce que le rêve, c'est un instrument de connaissance de soi aussi? Est-ce que votre travail, par exemple, vous apprend des choses sur vous-même, sur votre imaginaire?
Oui. Alors le cabinet de curiosité aussi, c'est l'idée que c'est en fait, la poésie, c'est une manière de... C'est un travail psychique, comme le rêve, qui permet de se connaître,
oui,
effectivement. Et qui permet de connaître un autre moi que le moi social, la personne que vous avez aujourd'hui en face de vous. C'est-à-dire d'autres facettes, oui. Et des facettes inconnues. Ouais.
Alors, en vous lisant, on est gagné par une sensation de flottement très agréable, accompagnée d'un doux délire. L'ange du bizarre nous devient familier. On croise avec reconnaissance le phare à moustache, le raccommodeur de textes, le collectionneur de nuages. Alors, évidemment, on pense au surréalisme, mais moi, j'ai... Avant toute chose, pensez, je vous l'ai dit tout à l'heure, à la cité mongole de André Ardelet. Vous m'avez dit, mais bien sûr, j'aime. Je l'ai lu à l'âge de 14 ans, ça.
Oui, j'ai découvert Ardelet à l'âge de 14-15 ans. Et entre autres, Ardelet a écrit de nombreux textes sur des métiers imaginaires.
Ouais.
Hein, ouais. Ardelet, c'est un poète qui mériterait d'être lu beaucoup plus, je pense.
Oui.
C'est un grand, grand poète. Hein.
Ouais. Comment a démarré votre apprentissage de poète? Parce que c'est votre premier recueil, mais vous avez publié beaucoup en revue, et ce depuis 30 ans déjà. Hein.
Oui.
Donc comment s'est née cette vocation poétique?
Alors j'ai réfléchi un petit peu à la question et je me suis dit que la poésie, finalement, si on considère que l'homme il vit dans le langage, hein, dans le symbolique, on peut dire que la poésie, en quelque sorte, c'est notre rapport au monde. Donc je peux dire que j'ai toujours été poète. Quoi. Quand j'étais petit, j'aimais bien regarder les effets de lumière sur un mur. J'habitais en Touraine, donc il y avait l'Indre qui avait une couleur verdâtre qui me faisait penser à une émeraude. Voilà. Donc je pouvais rester sur le pont à Montbazon où j'habitais et regarder la rivière couler. Je me rappelle aussi des murs à la maison quand j'étais petit qui étaient tout grumeleux et qui faisaient penser à la chair de poule, vous savez, quand on a froid. Voilà, c'est toutes ces sensations-là.
Elles sont restées alors.
Elles sont restées intactes, et puis j'essaye de les réutiliser dans les poèmes, ou alors ils reviennent la nuit dans les rêves.
Ouais.
Parce que le rêve, c'est ça. Le rêve, c'est un peu comme une carotte qu'on fait, vous savez, en géologie, et qui permet d'aller voir dans les couches inférieures de la psyché. Quoi.
Un autre auteur que vous avez cité, maintenant je comprends mieux là, en vous écoutant, c'est Nerval.
Oui, j'aime beaucoup Nerval.
Ouais.
Parce que Nerval, c'est cette impression de flottement. On ne sait pas si on est dans le rêve ou dans la réalité. Il y a quelque chose comme ça, oui, de flottant qui fait penser un peu à la littérature japonaise aussi.
Ouais. Hein? Oui. Alors, comment êtes-vous entré dans ce fameux cabinet de curiosité? Comment ça s'est produit? Comment c'est devenu un livre, finalement, puisque vous le dites, vous publiez régulièrement des poèmes dans des revues. Comment c'est devenu un livre?
Alors, à l'origine, en fait, c'était un poème, c'est le poème introductif. Hein. Le premier poème, qui s'appelle Le cabinet curiosité, c'est un poème qui avait été édité dans une revue qui s'appelle... Je ne me rappelle plus.
C'est pas grave, elle se reconnaîtra.
Ouais. Enfin bref, donc c'était ce poème introductif. Et puis quand j'ai voulu envoyer des textes à Claude Verset, qui avait déjà remarqué des petits poèmes étranges que j'avais publiés dans des charges, qui s'appelaient Les Trublions, je me suis dit ça serait pas mal d'aller... C'est la première fois que j'ai fait un travail, en fait, d'aller chercher dans tous les textes que j'avais écrits, parce que j'en ai écrit beaucoup, pour faire un ensemble. Et en fait, il y a beaucoup de textes qui ne faisaient pas partie des mêmes recueils à l'origine. Mais j'ai fait un travail comme ça pour essayer de les rassembler. Et en fait, ça s'est bien goupillé. Ouais. Et comme ça a beaucoup plu à notre ami Claude Verset, et ben c'est comme ça que ça a été édité. D'ailleurs, je voudrais remercier ici Claude Verset et tout le travail extraordinaire que fait la revue des charges et que font les revues en général, sans lesquels il n'y aurait pas de...
Bien sûr, oui.
Il n'y aurait pas toujours de débouchés pour les poètes.
Ouais. Vous êtes quelqu'un qui travaille beaucoup, beaucoup ces textes. Vous aimez la langue, hein, c'est vraiment votre matière. Vous aimez la langue, vous aimez les auteurs qui aiment la langue aussi.
Ouais. J'aime beaucoup la ponctuation.
La ponctuation, voilà.
C'est mon dada. Parce que quand j'étais adolescent, je me rappelle, au lycée, j'avais eu maille à partie avec un prof parce que je mettais aucune ponctuation. Et je me suis rappelé tout le reste de ma vie ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, c'est bien d'être comme ça un petit peu vindicatif, mais il faut aussi faut mettre de l'ordre dans vos pensées. Quoi. Et la ponctuation, ça m'intéresse beaucoup. Et comme c'est des poèmes en prose, j'y passe beaucoup de temps. Et entre autres, j'ai un amour particulier pour un dinosaure de la ponctuation qui s'appelle le point-virgule.
Qui disparaît peu à peu. On ne sait plus quoi en faire. Et bah, si, on peut lui trouver
une utilité. Oui, on peut. Vous verrez, il y a plein d'usages. Ça permet de faire des longues phrases aussi, parce que ça c'est mon... Parce que j'aime Proust, donc j'aime aussi les phrases qui se...
Phrases longues, mais une grande nervosité. Je vais vous citer. Je vais citer le raccommodeur de texte, je vais le lire in extenso. Ouais. « Au moins de réputation, tous les écrivains le connaissent, mais peu ont l'idée qu'il est là, derrière eux, surveillant le travail, armé d'une aiguille, d'un dé, jamais d'abolir à le hasard. En quelques points de croix, il referme la plaie, brode autour des lacunes de petits dessins fugaces et fantastiques, proches des visions hypnagogiques. S'étant acquitté de sa tâche, il retourne à la rue dont il est l'héritier en criant « Raccommodeur de vaisselle, raccommodeur de vaisselle ». Il est très beau ce texte. J'aime beaucoup cette phrase. Il retourne à la rue dont il est l'héritier. Et là, on débouche sur autre chose avec raccommodeur de vaisselle. Il y a vraiment des ruptures, des lignes tout le temps, des fractures, des ruptures dans vos textes. On a le sentiment d'ailleurs de basculer d'univers à univers.
Oui, il y a des glissements comme ça qui s'opèrent, comme des changements de décor à vue au théâtre. Ouais. Ça, c'est l'atelier du rêve. Ça.
Oui.
C'est le rêve qui permet de produire ça.
Alors, Cadou a dit... Cadou, dans la poésie, ne vous ressemble pas, je le dis pour nos auditeurs. La poésie sera toujours l'éloge de la vie dangereuse. Est-ce que vivre entre, comme ça, le rêve et la réalité, parfois, vous avez peur ?
Non, pas du tout.
Vous êtes très à l'aise.
Vous avez parlé d'humour. J'essaye de faire une littérature aussi qui soit drôle, quelque part. J'aime bien les auteurs qui ont, comme on dit, qui ont de l'esprit, quoi.
Oui.
J'aime pas les choses pesantes.
Voilà. Les choses pesantes.
Même Proust, c'est drôle. Hein. Ouais. C'est très drôle, hein. Proust. Il y a plein de choses drôles.
Ouais. Moi, je pense aussi que, par exemple, les lecteurs de Vialat vous aimeront.
Ouais.
Les lecteurs des chroniques de Vialat vous aimeront aussi.
Vialat, c'est bien. Ouais. Ouais, ouais. Je veux bien Vialat.
Alors, ce qui frappe, qui séduit le lecteur, c'est évidemment le foisonnement de votre imaginaire. On vient d'en avoir un exemple. Toutes ces figures, ces allégories que vous tirez de votre chapeau de magicien. Et derrière ce foisonnement, moi, je devine... Sinon, un ordre caché, tout au moins un corpus culturel qui est très vaste, qui va de la physique quantique, d'ailleurs il y a un truc sur la physique quantique, à l'alchimie. Et, par exemple, le poème de la page 51, Les quatre cornues, fait référence à l'art de l'alchimie.
Ah oui, j'aime beaucoup l'alchimie pour sa richesse iconographique, par exemple. Hein, dans ma bibliothèque, à la maison, j'ai le Mutus Liber, le livre muet, justement. Et c'est un livre que je regarde très souvent parce que... C'est un support pour la rêverie.
Ouais. Ouais. Vous m'avez dit, je pratique l'alchimie, mais non opérative. Ouais. Mais qu'est-ce que ça veut dire ?
C'est-à-dire, j'essaye de transformer le. Mais ça, c'est ce que disait aussi André Breton, transformer le plomb en or. C'est-à-dire faire des petites. Je vous ai donné un dessin en arrivant sur une boule à neige. Voilà, je voudrais que mes petits poèmes soient à la fois comme des petits automates avec plein de petits trous, des mécanismes assez subtils. Et puis aussi comme des boules à neige, c'est-à-dire des mondes miniatures qui se suffisent à eux-mêmes.
Clos sur eux-mêmes. Et
c'est pour ça que le cabinet de curiosité, c'est aussi l'idée de, comme ça, d'un endroit où il y a des choses différentes. Chaque poème se suffit à lui-même. Oui. Et en même temps, si vous voyez sur l'illustration, puisque c'est moi qui l'ai faite, on voit que le cabinet, c'est un personnage, en fait. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure sur le travail psychique. Le cabinet, c'est nous-mêmes.
C'est nous-mêmes.
Chacun est un cabinet de curiosité.
Ouais. On n'y entre pas forcément soi-même. Il est bon que des poètes fassent ce voyage.
Des passeurs, des ouvreurs. Voilà.
Alors, vous êtes aussi peintre. Et d'ailleurs, vous avez exposé dernièrement à l'atelier de la poêle percée, c'est à Chartres. Pouvez-vous nous parler de votre travail de peintre ?
Alors, dans ma peinture, il y a deux choses. Il y a des choses, comme on voit sur l'illustration, assez fantaisistes, qui font penser un peu à la miniature. Et puis, j'aime aussi beaucoup l'abstraction. Donc, mes peintres préférés, c'est Pollock, aussi, comment il s'appelle, Rothko, pour la couleur. J'aime beaucoup la couleur.
Ouais. Il y a beaucoup de couleurs dans votre livre aussi.
Parce qu'en fait, je ne suis pas venu tout de suite à la peinture. J'ai d'abord été écrivain très longtemps. Et en fait, petit à petit, je me suis rendu compte que ma poésie, de toute manière, c'est une poésie d'images. Donc ça rejoint un peu les images picturales. Ouais. Imaginaire, imagination, tout ça, c'est autour des images. Et on revient encore au rêve, hein, puisque le rêve, on rêve en images. Hein, c'est ce qu'avait bien... Freud a bien insisté là-dessus. Que le rêve, c'est d'abord des images, avant d'être du texte.
Il y a un texte sur la physique quantique, enfin, qui s'intitule Physique quantique. Ouais. Vous vous intéressez aussi, parce que là, je me dis que là aussi, il y a des passerelles entre votre travail et...
Ouais, je peux pas dire que je suis un spécialiste de la physique quantique, mais comme j'ai fait un peu de philosophie, oui, c'est des choses qui m'intéressent. Sur la relativité de l'observation du monde dans lequel on vit.
Ouais.
C'est-à-dire que ce que montre le cabinet de curiosité, c'est qu'en fait, c'est que le monde dans lequel on vit n'est pas du tout le monde, seulement le monde apparent tel qu'il apparaît. Quoi. Il y a quelque chose peut-être derrière.
Il est coloré aussi par nos propres perceptions.
Oui, il est complètement... Et mon monde n'est pas votre monde. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que les mondes arrivent à se rejoindre quand même. Sinon, il n'y aurait pas de lecteur et pas d'écrivain.
Éric, merci. Merci beaucoup. On arrive au terme de cet entretien.
Merci, c'est moi.
Alors, après ce cabinet de curiosité dont je vais lire des extraits à nos auditeurs, on attend la suite avec impatience. Est-ce qu'il y a un autre livre sur le feu ?
Oh oui, il y a plein d'autres livres
sur le feu.
Dont un qui s'appelle « Quelques planches d'une encyclopédie imaginaire ». Où il y a des choses qui sont assez proches du cabinet de curiosité, en même temps des choses différentes. Il y a d'autres recueils, il y a des romans que j'ai écrits il y a déjà un petit peu de temps. Puis il y a un roman que je suis en train d'écrire qui s'appelle La Cité Céleste, en hommage au père de l'église, Saint-Augustin. Parce que je m'intéresse aussi à la théologie.
Vous vous intéressez aussi à la théologie ?
Ouais. Mais théologie négative.
Ah, donc ça aurait pu être Maître Eckhart aussi.
Voilà, Oui, je connais aussi Maître Eckhart, Donc j'ai plein d'intérêts.
On va vous suivre avec beaucoup de passion et d'attention.
Et merci de m'avoir invité.
Je vous en prie. Je rappelle donc le titre du recueil, Le Cabinet de Curiosité, qu'on peut se procurer auprès de la revue des charges, notre partenaire. On va écouter quelques notes de musique. Puis je vous lis des poèmes d'Éric Godichaud, extraits de son recueil. Merci beaucoup.
Merci.
Le cabinet de curiosité. Un long couloir mène à ce cabinet. Moi-même, je n'en connais ni le début ni la fin. Et parfois en route, la nuit, la neige peut surprendre. Une lampe torche à la main, je cherche le petit rectangle jaune, là où il faut échouer. Ce goût vient de mon père. Il entassa dans sa petite maison une multitude d'objets. À l'intérieur du cabinet, une fenêtre donne sur des minarets roses une vue de Piranèse, les clochers glacés. Un dessin de mouche, peint avec un pinceau appelé abeille, bourdonnant au-dessus des formes. Chaque facette de l'œil est un petit miroir de sorcière. Des insectes scarabées, carabes dorées, agrandis mille fois, servant de pouf, de bureau, recouverts à la peinture bleue de minuscules hiéroglyphes. Une variante, quoique plus secrète, de l'écriture en pattes de mouche. Parmi ces livres vivants, usinés comme à l'intérieur d'une ruche, il n'est pas rare d'entendre, voix de derrière le cabinet, je prendrais bien le deuxième tome. Des fougères peintes à leur fin, aux spores si précieux, tout l'éventail des gemmes si volatiles qu'au premier « Ah !» ils s'enfuient et viennent piquer les doigts, de toutes les couleurs. De Kafka, un poème écrit à l'encre invisible, enroulé autour d'un bâton comme un rouleau antique. À la flamme d'une bougie, des lettres apparaissent, d'autres restent cachées. Toutes les clés avaient été évoquées, sans rémission, dans des processus interminables et fragmentaires. Avant le XIIIe siècle, la teinture bleue était si instable qu'au premier lavage, les tissus passaient. Une tunique si transparente d'eau fraîche, d'ondulation. À son signal, les Océaniens donnaient l'ordre de mettre à l'eau les milliers de pirogues à l'abordage des vaisseaux anglais. Ils soufflaient dans leurs conques, comme les anges. En bon proustien, le cabinet de curiosité comprend un manteau élimé retrouvé aux puces, une pile de lettres détruites par la famille. « Vous savez, me dit le collectionneur, il y avait autour de lui une telle odeur de soufre. À sa mort, on a tout brûlé. » Dans ce coffret, des rêves attendent l'ouverture. Hervé de Saint-Denis rôde au milieu d'une ville chinoise écroulée, traduisant les ruines en français. Les autres rêves codés, comme dans une autre langue, seulement parlés par l'inventeur. Un artiste de la voltige. Nommé hirondelliste, ce musicien des airs, cet artiste de la voltige, dresse les hirondelles aux plus incroyables acrobaties. Dans un cirque étoilé, de taffetas ou de papier de soie, il présente ses protégés sur un fil brillant jeté entre deux abîmes. Au premier sifflement, la plus vive s'élance au nadir, puis brusquement part en piqué. Elle doit défaire les cheveux d'une femme, repartir en tenant dans son bec une épingle. La seconde forme des lettres, arrosant l'air échaudé de petites bulles de savon. Au final, elle salue, l'œil vif, l'aile frémissante. L'hirondelliste se tient tout près, derrière un rideau noir et blanc. L'inventeur d'Apo. Au printemps, armé de pied en cap, il descend des montagnes où il passe l'hiver à sculpter ses apos, du plus petit au plus grand, aussi vaste qu'une forêt de tuyaux derrière le buffet. En bas, il doit couper les essences, les choisir, faire feu de tout bois. Les haies bordant les rails font surgir les locomotives crachant une fumée noire d'anthracite dans les chambres. Les seaux l'attireront dans les vasques, des ondines dégoulinantes et futées. Un petit bois vert évoquera les bombardes, les fifres, la fanfare et l'éclipse solaire. Tout l'art est du domaine des correspondances. Le raccommodeur de texte. Au moins de réputation, tous les écrivains le connaissent, mais peu ont l'idée qu'il est là, derrière eux, surveillant le travail. Armé d'une aiguille, d'un dé, jamais n'abolira le hasard, en quelques points de croix, il referme la plaie, brode autour des lacunes de petits dessins fugaces et fantastiques, proches des visions hypnagogiques. S'étant acquitté de sa tâche, il retourne à la rue dont il est l'héritier en criant « Raccommodeur de vaisselle ! Raccommodeur de vaisselle !» Le chercheur d'écho. Chercher l'écho est une situation inconfortable, car à l'instar de l'objet de la recherche, cette activité peut se répéter de nombreuses fois sans résultat digne de ce nom « écho ». On dit alors que l'écho est étouffé sous la braise. Une sourdine l'empêche de tinter. Ne pas se décourager, choisir un passage entre deux vallées, se cacher derrière un gros rocher. Dans un silence religieux, écouter le bruissement d'une cascade à l'arrière-plan. La nasse aux anguilles doit être déployée. Ouvrir la porte, en écoutant le tic-tac du miroir aux alouettes. Recommencer jusqu'à disparition totale du phénomène. L'écho a gagné, à la joie du chercheur, ses quartiers d'hiver. Le porteur de bonnes nouvelles. Endimanché, Portant le beau costume et le chapeau avec un sens inné de la distinction, il porte les bonnes nouvelles comme s'il portait la douleur du monde sur ses épaules. Il assume avec fierté ce paradoxe. Il ne sonne pas à la porte, il la pousse d'un pied puissant et sans bruit glisse sur le parquet comme une étoile de l'opéra. Il se contente d'un frichti, s'essuie la bouche à l'aide d'une serviette empesée, repart sans laisser de traces. Les bonnes nouvelles, il les murmure à l'oreille. Celles du cœur, nous les portons à notre tour. La physique enchantée. Tout cabinet de curiosité doit être équipé du matériel nécessaire à l'expérimentation enchantée. On la dit telle car elle est un croisement curieux de magie blanche et de sciences dites éclairées. Au monastère de Brno, Mendel cultivait ses petits pois en relisant saint Thomas. La première expérience est la transformation de la glace en nuage ayant la dureté d'un acier trempé. La deuxième fait rebondir tout objet sur la surface grêlée d'un plafond. Le plafond est bleu, parcouru de flots bouillonnants comme à l'ouverture d'une écluse. La troisième s'attache à rendre possible la condensation de petits fragments vitrifiés de temps conservés sous cloche. L'exercice est si rare, si périlleux, que plusieurs traités s'y sont cassés les dents. Le moins abouti sera, à l'occasion, plus proche d'une vérité en mouvement. L'avaleur de sabre. Avaler des sabres doit obéir à certaines règles, édictées par la confrérie des avaleurs de sabres. Sous peine d'accident, le sabre doit être la veille enduit de miel, de préférence d'acacia, frotté à la gousse de vanille. Certains le culottent comme une pipe, en le flambant à l'alcool, mais c'est une hérésie. Lorsque la pointe entre dans la cavité buccale, écartez les jambes à la manière d'un chanteur lyrique, poussez le diaphragme vers le bas. Alors, pendant l'introduction, faire le vide, c'est aussi laisser toute la place au corps étranger. À cet instant, visualisez les idées suivantes. Corps vide, buffet sans vaisselle, milliers de billes tombant dans la caverne. Sur le fil du rasoir, il peut avaler des couleuvres et des chapeaux. Le décapiteur d'oiseaux. Décapiter les oiseaux est une entreprise si funeste, si terrible, que bon nombre d'adeptes y perdent eux-mêmes leur tête. Par oiseaux, on entend ceux qui volent, dotés de plumes. Les oiseaux de basse-cour, les autruches, n'en font pas partie. Ce sont les oiseaux du bas. Il faut chercher, lever la tête, au filet, attraper en plein vol les oiseaux, les démêler, les laisser prendre dans un bain de résine. Lorsque la résine durcit, les oiseaux prennent la forme de petits poissons, illustrant la maxime « les oiseaux nageront et les poissons voleront ». L'épingleur d'humain. Si classer les papillons est devenu une activité rare, chasser les humains, les présenter dans des vitrines reste un pis-aller. Au lieu d'un filet, une paire de menottes, un collet ou bien un trou caché par des branchages aident à prendre un homme sans trop l'abîmer. Moins fragile que les fines ailes des lépidoptères, le bouquet des vertèbres s'ouvre en fougère. Sans le déplacer, le prendre au vol reste le meilleur moyen d'en fixer l'expression. Étonnement, effroi, incompréhension, lassitude. Il faut l'endormir, le laisser rêver, tirer à quatre épingles, lui demander gentiment d'entrer dans la vitrine où désormais, entouré de congénères, il déblatérera sur les minuscules irisations à la surface de la peau. Lui donner un nom, écrire l'histoire, donner à l'étiquette ses lettres de noblesse. Le mot talismanique. Et ce mot, sur un lac bleuté, prenait expansion, petits trous, auréoles de plus en plus grandes, atteignant les rives. Mot imprononçable. À la prochaine campagne, il se gonfle, devient clairon, sonne la charge. Nuage gris à l'arrière-fond. Chaque mot, un chemin vers l'horizon qu'il ouvre. Avec lui charrie une armée. Il traîne les fantassins, sans relief, les archers atteignant la cible. Qu'il adhère à la page, le rayon se voit dévié à la surface, prend alors des directions inusitées. À la manière du talisman des nabis, il rompt soudain le miroir pour un ailleurs, un à côté. La dureté des pages est identique à l'acoustique étouffée d'un vent. Réverbération des cloches dans l'air pur d'un tableau. La carte fantôme. Coupée du jeu, elle brille en silence. Et les meilleurs tireurs de cartes sont capables de la faire apparaître entre les autres cartes, parmi les bleuets, les sauts de carpe. Mais depuis la disparition du grand maître, la carte, changeant d'état, a pris l'allure d'un petit nuage, un peu rose, indicible, auréolant les serrures et les nappes. Sans pouvoir lui donner un sens bien précis, c'est un trou, un cercle. Et ceux qui peuvent briser le cercle ont une coudée d'avance. Les cartes prennent alors la réalité des pierres. Sans se départir d'un sourire en coin, elles arpentent les mille et un châteaux sans jamais tomber, jetant parfois distraite un coup d'œil sur les ruines. Voilà, c'était quelques extraits du cabinet de curiosité. J'espère que j'ai éveillé la vôtre. C'est donc publié par la Revue des Charges en partenariat avec les éditions Gros Texte. C'était Dave Douglas, Wild Coffee. Je vous propose d'écouter sans plus tarder et à suivre les chroniques de Claude Verset, poète, chroniqueur dans la Revue des Charges, notre partenaire, et Cécile Guivarge, poète et animatrice du site Terre à Ciel.
Bonjour, bonjour à tous. Bonjour, Christophe. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vais commencer par un poème. Poème qui va poser la thématique de cette chronique. Poème qui me vient de New York, où vit le poète Christian Garrot. Ce poème s'intitule « L'aigle ». Dans une grande enveloppe brune, ma mère m'a laissé des reliques, souvenirs de la vie quotidienne pendant l'occupation allemande. Un morceau de pain, dur comme du roc, un gris coupon de rationnement pour... une paire de chaussures, un billet de banque à l'effigie du maréchal Pétain, un journal vantant les victoires de l'Axe, un autre la libération de Paris. Comment intéresser mes enfants à la vie quotidienne à Poitiers il y a 70 ans quand ils sont témoins tous les jours de la destruction d'Alep. Alep. En ce mi-janvier 2017, au moment où j'enregistre cette chronique, on n'échappe pas à l'évocation de la ville martyre. Et je prévois d'ores et déjà de publier dans la prochaine livraison de la revue des charges un certain nombre de poèmes sur le même thème. Mais aussi sensible soit-il, il demeure un incommensurable écart entre la compassion que peut exprimer un poète français, bien installé, somme toute, dans un confort dont il ne prend peut-être plus la mesure, et la douleur d'une Fadwa Suleiman, poète syrienne, aujourd'hui réfugiée en France, est née, quant à elle, à Alep. Qui suis-je encore ? Interroge Fadwa Suleiman à la fin de son recueil « À la pleine lune » que publient les éditions du Soupirail dans une traduction de Nabil El Hazan. « Je suis de là-bas et ne suis pas de là-bas, ni d'ici », dit ce même poème. Fadwa Suleiman fut une figure de proue de la révolution syrienne, avant de fuir vers la France, où elle s'installe en mars 2012. On espérait effacer le code de la guerre et semer l'amour, écrit-elle dans le poème liminaire dédié à son fils. Et c'est en France que cette comédienne, comédienne de formation et de profession, commence à écrire de la poésie, qu'aujourd'hui elle interprète elle-même en arabe et dans la traduction française. Mais plutôt qu'analyser cette poésie, je préfère utilise le temps qui me reste à vous lire un fragment d'un des poèmes du recueil « À la pleine lune ». Ma pauvre mère, elle ne savait pas comment s'amusent les puissants. Elle n'a pas su qu'ils ont barbouillé de rouge frères et sœurs, et elle-même, de rouge. Ma mère ne les a pas maudits lorsqu'avec des rires, ils ont détruit les maisons. Elle ne leur a pas crié dessus lorsqu'ils ont mis le feu à ma balançoire. Et dans le jardin de Hala, elle n'a pas hurlé lorsqu'ils ont aligné mon père avec les voisins et de leurs fusils ont fait jaillir les crayons pour babouiller toutes les têtes de rouge. À noter que cette poésie, cette jeune poésie, a rapidement trouvé son public. En 2016, les lycéens de l'Académie du Nord-Pas-de-Calais, qui constituent le jury du prix des découvreurs, ont largement porté leur suffrage au recueil « À la pleine lune » de Fadwa Suleiman. Recueil paru, je le rappelle, aux éditions Le Soupirail, et qu'on peut commander dans toutes les bonnes librairies. Allez, à bientôt.
Bonjour Christophe, bonjour à tous. Pour cette nouvelle édition, je vais vous parler d'un livre de Michel Bourson qui est paru à la tête à l'envers, qui s'appelle « Ce peu de soi ». Ça commence par deux vers. Une voix se fait entendre en nous. Le jour ne comble pas le vide en nous et nous ne comblons pas le sien. Chacun semble à sa place. Ces deux fragments pourraient résumer non seulement ce livre, Ce peu de soi, mais aussi une grande partie de l'œuvre de Michel Bourson. Chaque chose semble à sa place dans cette poésie. Toutefois, rien n'est sûr. Le poète prête sa voix à l'écriture, ou plutôt écoute cette voix qui le fait écrire. Écrire ce que les mots provoquent en soi et constater comment ils deviennent des idées. Les yeux, à l'instar de la parole, ont aussi leur rôle. Les yeux regardent de vastes étendues de terre, longuement, au point de les sentir peser en soi. Cependant, c'est la voix qui toujours revient et domine. Qui sommes-nous face à cette voix? Que savons-nous des mystères de l'existence? Ne faudrait-il pas plutôt, comme le suggère Michel Bourson, vider la tête de sa voix et écouter seulement le corps vivre? Michel Bourson se préoccupe de notre place dans le monde et de la trace que nous laisserons. Dès le réveil, nous ouvrons les yeux sur notre mort, nous marchons dans notre disparition, écrit-il. Il nous rappelle que nous sommes si peu sur Terre, il frôle des questions philosophiques, mais il ne philosophe pas. Il est bel et bien dans la poésie, en apportant des questions qu'il ne tente pas de résoudre. À lire Bourson, les mots, les phrases sont d'apparence simples, cependant ils induisent une gymnastique de la pensée. Lire Bourson donc fait du bien, vu qu'on fait de la gymnastique. On ne peut pas dire qu'on en sache davantage sur les mystères de l'existence, mais sa voix nous porte et nous interroge. Lire Bourson, c'est également puiser dans ce quelque chose d'intérieur, chercher ce que la vie creuse en soi. Il écrit « Seul à s'entendre respirer, à écouter les battements de notre cœur, nous sommes à côté de la vie que nous regardons. » Il écrit aussi « Que retenir de la vie quand la plupart du temps, nous demeurons là, entre les choses, sans qu'il nous importe d'être parmi elles. » Il écrit également « Que restera-t-il quand la voix sera définitivement éteinte ?» Ainsi, Michel Bourson questionne le temps, notre place dans le monde, avec la langue, avec les mots. Ces derniers seraient-ils preuve de notre existence quand nous nous effaçons plus rapidement que les choses qui nous entourent? Ce peu de soi est donc guidé par une interrogation essentielle. Qui sommes-nous, assortis de cette inquiétude? Nous ne saurons jamais ce que nous conserverons de nous. Je vais poursuivre avec un autre livre de Françoise Delorme qui est paru aux éditions Tarabuste et qui s'appelle « À la longue ». Alors, elle écrit ainsi, Françoise Delorme, « Je ne peux jamais dire, je ne me sens pas de parenté avec l'herbe, avec l'arbre, avec la parole, avec tout ce qui penche. » Ainsi, Françoise Delorme donne le ton de ce livre qui est composé de plusieurs parties, des parties soit en prose, soit en vers. Et à la fois, c'est un journal de la pensée, c'est aussi un profond élan de vie, d'amour, de partage, mais aussi d'impuissance face au monde. On se laisse vraiment porter par ces mots, par cette langue percée de soleil. C'est une langue où les couleurs sont très présentes, les couleurs des fleurs, du ciel, de la terre. La terre aussi est très présente, c'est la terre qui nourrit, celle que l'on pétrit, celle que nous partageons. Et les textes s'écrivent dans des moments et des lieux précis, comme par exemple à Lajoux, dans le Haut-Jura, ou à Paris, à Genève, à Vitreuil, ou ailleurs. Le très petit, le quotidien, son silence qui bouge à peine, côtoie le soi-même, ce peu de choses que nous sommes avec notre bref passage sur terre. Ceci est évoqué par Françoise Delorme en quelques mots. Dans le soleil, je brille et je meurs. Ainsi, la peur côtoie la vie côtoie la mort, et même la vie ne voit pas droite. Nous sommes occupés à tenir la main de la nuit. Chacun est enfermé dans ses propres peurs, dans ses propres mains, alors qu'au-delà de soi, à une plus grande échelle, il y a le monde, si présent dans ce livre. La solitude des hommes aux prises d'un monde qui leur échappe. Elle dit « Nous sommes trop nombreux, terre et ciel envahis. » Ce monde si violent, le monde coupé en deux et des deux côtés, le brouillon du noir, écrit-elle. Françoise Delorme se sent tellement impuissante qu'elle parle de malaxer la violence de la terre et vivre nue. Ce jeu existe dans sa solitude et aimerait rassembler, donner forme. Pourtant, il s'agit de poursuivre, d'écrire un mot humain. Humanité, fraternité, rassembler. Voici ce qui résume l'écriture de Françoise Delorme, comme glisser langue pour aller jusqu'à nous, dans un élan d'amour et d'humanité. Je creuse l'amour jusqu'à ce qu'il nous contienne. Toujours à la recherche de la lumière, dis-moi comment toi tu touches la lumière, car lumière toujours à la recherche de celui qui la cherche. Engagement, ce ne sont pas les poètes qui m'ont donné le droit à la parole, mais le politique. Volonté d'écrire vers l'humain, je pose devant toi l'oiseau d'un poème. désir d'approcher un alphabet, car l'écriture de Françoise Delorme s'en vante et ne cesse de le faire au fil de ce livre. Et toi, lecteur, tu entends le silence au fond d'une musique. Et voilà, j'en ai fini pour ces deux coups de cœur et je vous dis à très bientôt. Au revoir.
Voilà, vous retrouverez Cécile Guivarge dans 4 semaines pour de nouveaux coups de cœur. Quant à moi, je reprends la lecture de Zeste d'orange, commencée il y a 15 jours à l'occasion de l'interview de Jean Antonini qui a dirigé l'édition de ce livre, Zeste d'orange, qui tout simplement rassemble les auteurs de haïku dont les textes furent sélectionnés au cours des années de 2003 à 2016 par les différents jurys de la revue Gong, l'organe officiel de l'association francophone de haïku. J'avais arrêté ma lecture avec le haïku de Martine Otto. Je poursuis avec tout d'abord un haïku de Éric Elal. 13 ans, le préservatif gonfle, gonfle, bombe à eau. 13 ans, le préservatif gonfle, gonfle, bombe à eau. Vincent O'Haraud. Matin de printemps, plus agité que l'homme d'affaires, le papillon. Matin de printemps, plus agité que l'homme d'affaires, le papillon. Patricia Hoc. Première sortie, entre les îlots de neige, vaches et crocus. Première sortie, entre les îlots de neige, vaches et crocus. Florence Housset. Pétale de pommier, son épaule dénudée le long du chemin. Pétale de pommier, son épaule dénudée le long du chemin. Bruno Hulin. Jour de canicule, une mouche espiègle se joue des mâchoires du chien. Jour de canicule, une mouche espiègle se joue des mâchoires du chien. Yocasta Huppen. Bogue ouverte, mes doigts délogent la châtaigne de sa tiédeur. Bogue ouverte, mes doigts délogent la châtaigne de sa tiédeur. Lucia Yubu. Cimetière, sur une pierre tombale, trois personnages. Cimetière, sur une pierre tombale, trois personnages. Liette Janel. Un café au lait, le temps de rigoler de nos malheurs. Un café au lait, le temps de rigoler de nos malheurs. Jacques Janoir. Goût de la betterave crue, volée dans un champ pendant la guerre. Goût de la betterave crue, volée dans un champ pendant la guerre. Monique Ginchat. Matin d'avril, le merle et la bouilloire sifflent ensemble. Matin d'avril, le merle et la bouilloire sifflent ensemble. Christian Laballerie. Allongé dans l'herbe, les belles maisons au loin, derrière la fourmi. Allongé dans l'herbe, les belles maisons au loin,
derrière la fourmi. Henri Lachaise. Ils font bon ménage sur les vieux murs au mois d'août, lézards et lézardes. Ils font bon ménage sur les vieux murs au mois d'août, lézards et lézardes. Céline Landry. Le goût du riz, jamais plus le même après le Vietnam. Le goût du riz, jamais plus le même après le Vietnam. Céline Lebel. Tu ris à Paris, comme il est loin Bachot et son bruit de l'eau. Tu ris à Paris, comme il est loin Bachot et son bruit de l'eau. Et je termine avec ce haïku de Hélène Leclerc, NB899.LCD54RA. Le chat traverse le clavier. NB899.LCD54RA. Le chat traverse le clavier. Voilà, je reprendrai ma lecture de Zeste d'orange, l'anthologie de poèmes paru dans la revue Gong, organe de l'association francophone de haïku, dans 15 jours lors de la prochaine édition de La Route Inconnue. Je vous embrasse toutes et tous et vous laisse pour terminer dans les mains de Patrick Jockel pour sa chronique mensuelle. Je vous dis à dans 15 jours pour une prochaine édition de La Route Inconnue.
Eh bien, bonjour. Un éditeur dont on a parlé l'année dernière, un nouvel éditeur, hein, la Boucherie Littéraire, continue son chemin et il vient d'ouvrir une nouvelle collection qui s'appelle La Feuille et le Fusil avec un livre de Patrick Dubost. Le titre de ce livre, Poème taillé dans la pierre. Voilà une démarche d'écriture qu'il me plaît, qu'il m'est arrivé d'expérimenter aussi. En résidence d'écriture dans la chartreuse Notre-Dame-des-Prés de Neuville-sous-Montreuil, Patrick Dubost se met en silence. Il entre dans le silence de la chartreuse, le grand silence. Il se met à l'écoute de tous ses sens, se pose ici ou là, déambule dans les couloirs, le cloître. Il vibre, il devient le point d'accueil de chaque pierre, chaque herbe, chaque animal de ce lieu poli par le temps. Il reçoit les chants évaporés au fil des liturgies, surprend les ombres clignées de l'œil. Les mots se déposent sur le papier comme un goutte à goutte dans les cavernes. La géographie du poème épouse aussi les lieux, poème triangulaire. La voix prend le temps de la résonance des salles, des espaces où peuvent rouler les échos, s'installer des silences. Le poème interroge à la fois l'espace et le temps du lieu, comme l'espace et le temps de l'homme qui écrit. Un livre à lire, à relire même, pour s'imprégner, pour accompagner le jour au pas des vivants. Alors on va prendre les premier poème de ces 13 poèmes taillés dans la pierre, édité par la Boucherie Littéraire. On dit « on », comme on écrit sur le dos rond d'un moine. On se dit que le silence est rond aussi. On taille un arbre, on taille un arbre à la mesure du silence. On admet quelques oiseaux. On attribue un bruit pour chaque oiseau, chaque seconde, mais sans toucher au silence. On ajoute un graffiti parmi ceux de toujours. On affirme que tout fait poème. On prend ses désirs pour des réalités. On existe, bien sûr, encore un peu, mais très peu. Très, très peu. On est presque plus rien, comme un bruit, un souffle, suspendu dans un parfait silence. On se dit que celui qu'on est va mourir, mais que c'est pas grave, que de toute manière c'est pas pour aujourd'hui, car aujourd'hui, tout immobile, impossible mourir quand tout immobile. On écoute la lumière, on écoute ce qui parle au travers de la lumière et parle encore au nom d'oiseaux que l'on sait éternels. En effet, il se perpétue sans compter les jours et jamais ne différencie le spirituel du temporel. Et c'est ainsi qu'on parle, nous aussi, sans un bruit, sans jamais aucun bruit, avec juste nos mots d'oiseau. On est dans le préau, un arbre au centre, et ce qu'il faut d'ombre pour que ça tourne avec le soleil. On est assis au pied de l'arbre, on fait tourner les ombres sous deux clochers, un pour chaque œil. Mais tout peut-il vraiment tourner dans le même sens? On se dit qu'on existe, un peu, c'est possible. Il suffit pour cela d'être patient. On est simultanément dans chacun des clochers, une âme ici, une âme ailleurs, avec ce qu'il faut de couleur, une unique image imprimée, même si de deux manières différentes.